Nous allons continuer d'entrer dans ce problème de la sensation, puisque c'est là où nous étions restés, en comprenant tout de suite ces deux extrêmes, le toucher et la vision. Au point de vue philosophique, on pourrait étudier toutes les sensations, c'est sûr, parce que c'est le point de départ, vous voyez, de ce que nous dirions pour la connaissance analogique. Je crois que c'est quand même très important de bien souligner que tout de suite, notre connaissance, à son point de départ, connaît une diversité et une unité. Nous n'avons pas qu'un seul sens externe. Nous avons cette diversité qui nous est donné. Ce n'est pas un a priori, c'est un fait. Nous sommes des êtres qui connaissons tout de suite dans une diversité, une même réalité, mais selon des plans différents. Alors c'est pour ça qu'Aristote a tout de suite discerné, et on comprend très bien en fonction de cela, les sensibles propres, les sensibles communs, et les sensibles peracudans. Vous comprenez bien que cette distinction que fait Aristote, les sensibles propres, les sensibles communs et le sensible peracudans, c'est une distinction qui se fait, elle est critique d'une certaine manière, mais je crois qu'elle est déjà vraie au niveau de la philosophie du vivant. Il faut discerner tout de suite, au point de vue de la philosophie du vivant, il faut discerner cette diversité des sensibles propres. Il y a de fait ces sensibles propres qui nous sont donnés. Il y a ces sensibles communs qui, de fait, se réalisent au-delà des sensibles propres, mais par les sensibles propres. Et il y a le sensible peracidens, c'est-à-dire que nos sensations sont toujours liées, puisqu'elles sont des sensations humaines. Je ne sais pas ce que c'est que le sensible peracidens chez la vache. C'est très difficile de savoir, même les sensibles communs. C'est une distinction que nous faisons à partir, évidemment, de notre réflexion sur nos diverses sensations. Sur nos diverses sensations, nous constatons cette diversité, nous constatons cette unité, et nous constatons qu'il y a de fait un dépassement qui se fait tout de suite de la sensation, parce que nous n'avons jamais de sensation à l'état pur. Jamais. Quand vous buvez de l'eau, vous avez la sensation de la fraîcheur de l'eau, quand elle existe, justement, la fraîcheur de l'eau, parce que c'est la qualité de l'eau quand même, c'est la fraîcheur, c'est d'être limpide et d'avoir cette fraîcheur. Et vous, tout de suite, vous pensez à la fraîcheur de l'eau. L'eau, c'est le sensible peracidens. Que vous n'avez jamais senti l'eau. Vous avez senti des qualités que vous attribuez à quelque chose qu'on appelle eau. Mais l'eau, c'est justement l'intelligence. Vous savez, je ne sais pas, la vache, quand elle prend de l'eau, qu'est-ce qu'elle sent ? Elle ne dit sûrement pas fraîcheur de l'eau. Ça, non, c'est impossible. Elle a une sensation, sans doute liée à d'autres sensations, parce que je crois que les sensations peuvent être liées les unes aux autres et faire que, de fait, il y ait quelque chose qu'elle ne nomme pas, qu'elle ne connaît pas, que nous nommons et que nous connaissons. Parce qu'à travers nos sensations, notre intelligence, notre imagination est présente. Ça, nous le verrons. Mais dès que je fais cette distinction entre sensible propre, sensible commun et sensible peracidens, vous comprenez bien que là, je suis en face de cette attitude complexe que représentent nos sensations. Les sensibles communs unissent les sensibles propres. C'est déjà une première unité, mais c'est une unité qui, justement, n'est pas du tout simple, puisqu'il y a cinq sensibles communs. Et donc, je vois bien que ces sensibles propres sont unifiés par des sensibles communs qui sont multiples. Et ces sensibles communs qui unifient ces sensibles propres sont unifiés par quelque chose de plus radical qui n'est plus au niveau de la sensation. Donc tout de suite, il y a un dépassement de la sensation. La sensation n'est qu'un moment, un passage. Et ça, je crois que nous pouvons tout de suite le constater en philosophie du vivant. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la sensation m'est tout de suite donnée selon des modalités diverses. Alors, nous avons le toucher, qui est fondamental, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est la sensation du vivant et pour le vivant. Le vivant a besoin du toucher. Le vivant comme tel ne vivrait plus sans le toucher. Et c'est pour ça que le toucher est le sens à la fois le plus réaliste. C'est là où, au-delà de la sensation, nous atteignons tout de suite l'autre à travers la sensation. C'est le sens où, de fait, le point de vue du milieu intermédiaire nécessaire aux sensations est le plus dépouillé. Parce que d'une certaine manière, il n'y a pas de milieu. Nous sommes en contact direct. Alors que la vision, c'est l'inverse. Et le milieu, c'est ce qui conditionne le plus. Et donc, c'est dans le toucher où le conditionnement est le moins fort. Et où la qualité se révèle à nous de la manière la plus directe. Et cette qualité sensible est liée de la manière la plus directe à la réalité physique. C'est le toucher. Et c'est le plus difficile à analyser parce que c'est le sens le plus obscur. C'est dans les sensations du toucher où, de fait, la connaissance est le plus obscure. Mais c'est quand même toujours là où il faut revenir. Parce que c'est la sensation fondamentale. D'une certaine manière, on pourrait dire que les cinq sensations sont des touchés divers. Le goût est un toucher. Et la vision est aussi un toucher. Et donc, on peut dire que toutes les sensations sont des touchés avec des modalités différentes. Et les modalités différentes peuvent se prendre de diverses manières, peuvent se prendre par le point de vue du milieu intermédiaire, qui est plus ou moins grand, plus ou moins explicite, et qui explique ce conditionnement. Vous voyez, c'est là où c'est très curieux, que tout de suite la connaissance se donne à moi comme impliquant une détermination et impliquant un conditionnement. Tout de suite. La sensation du toucher implique un conditionnement et implique une détermination. Implique quelque chose de propre, quelque chose de commun et quelque chose de radical. Je suis immédiatement en présence de cela. Et c'est donné à travers le toucher. Et le toucher, je le découvre mieux en le comparant à la vision. Vous voyez, c'est que les sens, les sensations sont diverses et elles s'expliquent l'une par l'autre. Et c'est vrai que je comprends mieux ce que c'est que le toucher en l'opposant à la vision. Et je comprends mieux ce que c'est que la vision en l'opposant à ce que représente le point de vue du toucher. Alors, qu'est-ce qui apparaît dans la comparaison que je fais? C'est que le toucher apparaît comme le sens le plus lié aux nécessités de la vie. Le toucher apparaît comme le sens le moins libre. C'est évidemment qu'à l'égard du toucher, où je vois beaucoup moins la connaissance pour la connaissance. Le toucher est une sensation qui est liée à la vie et pour l'utilité de la vie. C'est le sens de l'aliment. C'est le sens de la vie végétative. Tandis qu'au contraire, la vision, c'est une sensation qui est beaucoup plus libérée du caractère utilitaire. Et donc, c'est à l'égard de la vision que j'aurai plus le caractère de la connaissance dans ce qu'elle peut avoir d'agréable, Les sensations de la vue sont plus agréables, plus liées à l'esthétique que la sensation du toucher. La sensation du toucher a quelque chose de beaucoup plus impératif au niveau de la vie. Tandis que la vision, elle, peut se séparer, et donc c'est à l'égard de la sensation du toucher, que je à l'égard de la sensation de la vue, que je comprends mieux comment la connaissance peut être recherchée pour la connaissance. Je ne recherche pas le toucher pour le toucher. C'est très curieux. Parce que c'est la tentation la plus ponctuelle, et donc la plus liée au reste de la vie. Elle est perdue dans le reste de la vie. Tandis que la vision, elle, peut s'isoler. Et donc je peux tout de suite comprendre deux orientations de la sensation. Une orientation qui est pour la connaissance et une orientation qui est pour la vie. Immédiatement, dès que j'oppose le toucher et dès que j'oppose le toucher à la vision. La vision est pour la connaissance, le toucher est pour la vie. Alors, ceci m'aide à comprendre comment j'aurai tout de suite deux orientations dans mes connaissances. Une orientation qui est pour la connaissance et une orientation qui est pour le point de vue pratique de la vie. Vous voyez, la distinction qu'on va voir plus tard entre connaissance spéculative et connaissance pratique, est fondée dans les sensations. Je peux dire que la sensation de la vue, elle est spéculative. Du moins, embryonnairement, parce que tout est embryon, tout est à l'état embryonnaire dans les sensations. Mais embryonnairement, ma connaissance de la vision, elle est déjà spéculative. C'est curieux. Ce sont les hommes qui sont plus doués du côté de la vue, qui sont plus spéculatifs, ordinairement. Ce sont des gens plus abstraits, qui ont un sens beaucoup plus grand de l'abstraction, que les gens du toucher, qui sont des gens beaucoup plus utilitaires, qui sont des gens beaucoup plus liés à l'aspect utilitaire. Là, il y a deux extrêmes très très courts, très intéressants à voir, parce que c'est quand même intéressant de voir que toutes ces distinctions qu'on fera après, elles sont enracinées. Elles sont enracinées dans le point de vue de la sensation. Et les sensations, parce qu'elles sont le premier moment de la connaissance, vont me donner, par le fait même, les premiers plis de la connaissance. Connaissance utilitaire, connaissance plus spéculative. Encore une fois, toujours à l'état embryonnaire. Je ne peux pas dire qu'il y a un sens spéculatif et un sens pratique, non. Mais je peux dire qu'il y a dans les sensations quelque chose qui est lié à la vie et quelque chose qui décolle plus facilement de la vie. Et ce qui décolle plus facilement de la vie, vous voyez, est beaucoup plus lié à un milieu vital qui, lui, n'a pas de limite. Tandis qu'au contraire, le sens qui est beaucoup plus pratique n'a pas de milieu vital, il ne peut pas se dégager de ce milieu vital, il reste rivé à ce milieu vital. Et je vous avais dit, ces expériences qu'on avait faites, qui sont très intéressantes au point de vue expérience, de voir comment, de fait, l'homme est lié très profondément à son milieu vital par le toucher. Inséparable de ce milieu vital qui est le toucher. Je ne pourrais pas vivre autrement. Alors, après, je vois le point de vue du goût. Le goût, c'est le toucher interne qui est lié à l'aliment, c'est bien évident. Qui est lié à l'aliment. Mais qui donne autre chose que le toucher. C'est quelque chose qui est encore plus individuel. Le goût est encore plus individuel. Et dans le goût, c'est tout de suite le point de vue de l'alimentation. Mais évidemment, l'art peut intervenir. Et alors donner au goût quelque chose qui soit plus séparé du côté utilitaire. L'homme de goût n'est plus uniquement lié à l'aspect utilitaire du toucher. Il a quelque chose qui lui permet de s'orienter déjà vers une connaissance voulue pour elle-même. Vous voyez, l'esthétique qui se lie au goût. Le bon vin, parce qu'au fond, c'est là où ça se voit le mieux, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est évident que ce n'est pas l'aliment que vous cherchez en premier lieu quand vous prenez du bon vin. C'est autre chose. Hein. Ça fait partie des oignons d'Égypte. Hein. Alors, mais il faut les rappeler philosophiquement. Du reste, c'est une manière de les purifier. Donc, le bon vin, ça fait partie, si vous voulez, d'une connaissance qui n'est pas rivée uniquement à l'aspect utilitaire, et qui est une connaissance voulue pour elle-même, et qui est liée à l'aspect agréable. C'est évident que c'est plus agréable encore le goût que la vision, point de vue agréable. C'est lié à quelque chose de très particulier, et très interne et très individuel. La vue est plus abstraite. C'est pour ça le dicton, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, mais c'est surtout des goûts, plus que des couleurs. Des couleurs, on discute beaucoup plus. Tandis que du coup, on discute beaucoup moins. On est beaucoup plus lié au toucher. Alors, il y a donc un toucher interne qui est le goût. Et ce toucher interne qui est lié au goût est quelque chose qui est plus particulier vis-à-vis de chacun. Et le goût est lié lui aussi à la vie, mais pouvant s'abstraire plus. Donc ayant une autonomie plus grande que le toucher. Et c'est vrai, le milieu vital du goût est un milieu que je possède au-dedans de moi-même. Il n'est pas très grand, si vous voulez, mais quand même un milieu vital, n'est-ce pas ? Parce que si vous prenez un trop gros bonbon, le milieu vital est tout de suite rempli. Et alors vous ne pouvez plus, alors que normalement vous mastiquez. Et se mastiquer, c'est justement quelque chose qui permet au goût de pouvoir voir ses différentes faces. C'est pas uniquement pour mastiquer, hein, pour dire il faut mâcher, c'est nécessaire de mâcher pour que ce soit plus assimilable. Ça, c'est dû orienter vers le point de vue utilitaire de l'assimilation nutritive. Mais vous pouvez aussi mastiquer parce que c'est plus agréable. Vous voyez ? Donc il y a là le point de vue esthétique qui intervient. C'est vrai, l'aliment, c'est lié à l'esthétique, il y a la cuisine, il y a l'art culinaire. N'est-ce pas ? L'art culinaire qui existe et qui doit exister, même au couvent. N'est-ce pas ? L'art culinaire doit exister même au couvent, parce qu'on n'a pas le droit de se dire, mais non, on va se nourrir comme les vaches. N'est-ce pas ? Alors uniquement les navets cuits, n'est-ce pas, vous voyez bien. Alors, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Ça fait partie du point de vue humain, ça. Vous avez l'odorat. L'odorat est un sens du milieu. C'est le sens du milieu, l'odorat. Très curieux, c'est le milieu vital. Et l'odorat est encore lié à la vie. Les trois sens qui sont liés à la vie. Le toucher, le goût, et l'odorat, qui sont touchés, qui sont liés à la vie, et qui sont liés au milieu vital en tant que le milieu vital nous permet de vivre. Mais tandis que la vue n'est pas liée au milieu vital qui nous permet de vivre. C'est bien évident, je regarde la lune, mais la lune ne me permet pas de vivre, n'est-ce pas ? Elle permet peut-être d'avoir des imaginations, n'est-ce pas, particulières, mais elle n'est pas immédiatement liée à la vie. Tandis que les trois milieux, l'odorat, le goût et le toucher, c'est lié directement à la vie. Très étonnant, ça. De sorte que quand les odeurs sont trop fortes, on ne peut plus vivre. On s'asphyxie. C'est très bien. Les odeurs sont trop fortes, les odeurs sont trop puissantes, ça vous empêche. Et ça vous enlèvera jusqu'au goût. Les odeurs trop puissantes. Ça vous enlève la capacité de vous nourrir. et la capacité de respirer. Ça fait partie, tandis que la vision, non, on fermerait les yeux, c'est tout. La vision est trop lumineuse. L'ouïe et l'œil, la vision, sont les deux sens les plus libres à l'égard de l'aliment. Ça joue, hein, ça ne veut pas dire du tout que la vision ne joue pas du tout au point de vue de la vue. Au point de vue de l'aliment, on sait bien, mais vous savez bien l'expérience que les psychologues font en disant « bouchez-vous le nez, mettez un bandeau sur vos yeux, vous n'arriverez pas à discerner le café du thé ». Alors quand vous dites ça à quelqu'un qui aime le thé, il est scandalisé. Et pourtant c'est vrai. Même à quelqu'un qui est un grand spécialiste du thé, vous n'avez qu'à lui boucher le nez. Il faut lui boucher. Hein. Boucher le nez, mettez un bandeau sur les yeux, il n'arrivera pas à discerner. Alors je ne sais pas si par rapport aux spécialistes des bons vins, il y aurait la même opération à faire. C'est possible que le nez, venez, joue un rôle très important pour discernement. Il y a une espèce d'acuité particulière. Et alors uniquement le goût. Autrement dit, le goût, vous voyez, c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est parce que d'habitude, hein, tous les sens sont liés pour discerner tel vin, pour discerner tel café, tel thé. Et le thé, quand je dis ce vin, c'est le sensible per accidens. C'est évident, vin de Bourgogne, sensible per accidens. Le vin de Bourgogne n'est pas sensible par lui-même, c'est l'intelligence qui l'a dénommé. Ce qui est sensible, c'est des qualités très particulières, qui sont liées au sensible commun, et qui ensemble me font détecter vin de Bourgogne, vin de Bordeaux, vin du Valais. Venez, ça me fait discerner les différents aspects. Ça, c'est les sensibles per accidens. C'est très curieux. Alors, je coupe. Je peux faire ça. Je peux faire une abstraction. Laisser uniquement le goût. Et je m'aperçois que le goût, il y a des tas de variétés, des tas de discernements qu'il ne fait pas tout seul. Alors là, je vois l'intervention d'autres sensibles. Ce qui montre, et c'est ça l'intérêt, qui montre combien les sensations diverses sont unies entre elles. Autrement dit, il y a une harmonie fondamentale des sensations. C'est pas moi qui ai fait le choix. Je dois le constater. Ni mes parents. Ça fait partie de l'espèce humaine. L'individu humain est lié avec ses cinq sensations. Et ces cinq sensations lui permettent d'avoir un contact avec la réalité pour la saisir dans ce qu'elle a de tout à fait individuel et singulier, à travers ses sensibles propres. Je fais moi-même une petite synthèse harmonieuse, à travers les sensibles propres. Donc, alors, vous voyez, là, il y a une étude extrêmement intéressante. Si on était au point de vue psychologique, on développerait cette étude. Au point de vue philosophie du vivant, c'est assez simple. On essaie de saisir quelle est la qualité propre de chacune des sensations. La qualité propre de l'odorat, la qualité propre de l'ouïe, la qualité propre de la vision. Et ça, c'est important à saisir. Quel est ce contact particulier que j'ai avec le monde physique, par chacun de mes sens? Alors, l'ouïe, c'est le sens de l'éducation. Normalement, c'est le sens de l'éducation. Mais quand je dis sens de l'éducation, c'est insensible per accidens. Le sensible propre, c'est d'être lié au son, à la voix humaine, et de sentir toutes les harmonies de cette voix et du son, et des bruits, parce que on sait très bien, l'ouïe me fait discerner les bruits multiples et divers. Et l'ouïe n'est pas directement liée à l'aliment. C'est pour ça que les gens qui sont très développés du côté de l'ouïe peuvent s'abstraire plus facilement de l'aliment, comme les visionnaires. Peuvent s'abstraire plus facilement. Pour la grève de la faim, c'est très important. Tandis qu'au contraire, ceux qui sont beaucoup plus liés au goût, c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'abstraire de l'aliment. Alors on peut prendre des ersatz, c'est ce qu'on fait de temps en temps, n'est-ce pas? Le chewing-gum, c'est un ersatz. Alors vous prenez ça parce qu'au fond, tel odorat ou tel goût, vous voulez vous en couper. Alors vous prenez ça. C'est très mauvais pour pour l'imaginaire, parce qu'au fond, c'est un transfert. Et alors on continue des transferts, donc on augmente le monde imaginaire, vous voyez. Je crois que ça, c'est très important, ça, au point de vue éducatif. C'est très, très mauvais d'éduquer avec des ersatz. Parce que c'est empêcher le contact direct avec le réel. Et vous mettez là une barrière entre les deux. On ne voit pas assez qu'il y a une harmonie profonde de la nature, des sensations avec les réalités. Et alors, si on commence à mettre des petits transferts entre le goût et l'odorat, pour supprimer certaines choses, c'est toujours un peu désastreux. Parce que à ce moment-là, on fait appel à un monde imaginaire. Oui, c'est exactement la même chose comme pour Louis. L'enfant doit être habitué à la voix de ceux qu'il aime, à la voix de ses parents, à la voix de ses frères et sœurs. Il s'habitue à ça. Et cette voix crée autour de lui un milieu dans lequel il peut être éduqué. Tandis que si, à la place de cela, vous mettez un écran de télévision, il y a quelque chose qui est supprimé. C'est ce que Mgr Gilson me disait. Le gros problème qui se posait, c'était de se dire comment un enfant qui a été éduqué par quelque chose qui n'est plus directement la voix humaine, mais par des voix qui ne sont pas, qui sont humaines fondamentalement, mais qui sont transmises et qui ne donnent plus le contact avec la personne, est-ce que ça ne va pas jouer sur le point de vue de la parole de Dieu? On fait une coupure entre la voix et puis le sensible per accidens. Alors il ne me parle pas du sensible per accidens, mais c'est moi qui dis sensible per accidens, parce que la voix est liée à un sensible per accidens. Alors si je fais une abstraction, je risque de la transposer après dans tous les autres analogués. Et alors à ce moment-là, il peut y avoir une espèce de coupure, et alors la parole ne dit plus rien parce qu'elle n'est plus liée à sa source. Bien, je crois qu'il y aurait toute une série de choses comme ça, très importantes à saisir au niveau de la philosophie du vivant, pour voir que le milieu dans lequel de fait se développent nos premières sensations n'est plus un milieu naturel. Et quand il n'y a plus un milieu naturel, il y a donc un hiatus plus grand qui se fait par l'art entre les sensibles propres et les sensibles communs. Et ce hiatus qui se fait entre les sensibles propres et les sensibles communs peut avoir beaucoup de répercussions, puisqu'alors à ce moment-là, je ne suis plus uni avec le sensible per accidens. Et quand je suis plus uni avec le sensible per accidens, il y a donc à ce moment-là quelque chose qui fait que je ne peux plus avoir le réalisme que j'ai, que je dois avoir. Mes sensations doivent me permettre d'avoir contact avec le réel qui est autour de moi. Et si je n'ai plus ce contact immédiat, on ne peut pas le remplacer. On ne peut plus le remplacer. Vous voyez ? Je crois qu'une philosophie comme Descartes, qui refuse les sensations, favorise ce développement artificiel. Parce qu'il ne voit plus le danger. Tandis qu'au contraire, une philosophie qui regarde le point de vue de la sensation comme source première de ma connaissance, comme source indispensable de ma connaissance, alors on respecte beaucoup plus profondément l'harmonie qui existe entre les sensibles propres et les sensibles communs, et les sensibles per accidens. On respecte ça comme une donnée de nature. Et vous savez bien que dès qu'on coupe des doigts, dès qu'on modifie ces données tout à fait premières, on ne sait pas souvent le résultat. Je crois qu'il y a là un problème de philosophie du vivant qui est très important à saisir, de saisir l'harmonie qui existe fondamentalement entre les cinq sens, les sensibles propres par les cinq sens, les sensibles communs et le sensible per accidens. Je ne vais pas m'insister plus, c'est simplement pour souligner un problème fondamental. C'est facile, là, à développer ça, par toutes les études de psychologie des psychologues d'aujourd'hui. Alors, il y a simplement, en critique, je souligne, parce qu'ordinairement, on ne le voit pas, et on n'a pas le temps de le voir en critique, parce que la critique de la sensation se fait au terme de toute la critique, et la critique de la connaissance est tellement vaste qu'on n'a pas le temps de le voir. Alors, il faut quand même essayer de le comprendre, cela. Par toutes les études de psychologie des psychologues d'aujourd'hui. Alors, il y a simplement, en critique, je souligne, parce qu'ordinairement, on ne le voit pas, et on n'a pas le temps de le voir en critique, parce que la critique de la sensation se fait au terme de toute la critique, et la critique de la connaissance est tellement vaste qu'on n'a pas le temps de le voir. Alors, il faut quand même essayer de le comprendre, cela. De comprendre ce problème psychologique des sensibles communs et des sensibles propres. Vous savez très bien qu'on a tendance de dire aujourd'hui, et au point de vue psychologique, purement psychologique, il y a quelque chose de juste, que les sensibles communs peuvent arriver à faire non seulement modifier, non seulement conditionner et modifier, mais même à changer la détermination des sensibles propres. C'est sûr que les sensibles communs, quand ils sont très vastes, modifient énormément la vision des sensibles propres. Alors, de là à dire que ce conditionnement arrive à modifier spécifiquement, il n'y a qu'un pas à dire. Et c'est très grave. Et c'est pour ça qu'il faut le souligner au point de vue philosophique et au point de vue critique. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Il est évident, un point rouge, je n'ai pas plus rouge que ça, n'est-ce pas ? Un point rouge, j'aurais voulu sur l'écarlate, mais c'est tombé dans la mayonnaise, alors un peu moins écarlate. Hein. Un point rouge sur une surface énorme est tout à fait différent que quand je regarde un petit carré qui vient. Tout à fait différent. C'est la même couleur, vos sensibles propres. Alors on dit, voilà, vous voyez bien que la surface, le nombre, parce que je pourrais dire le nombre aussi, la multiplication de ces sensibles propres, modifie complètement. En réalité, la surface sensible commun ne peut que conditionner le sensible propre. Tous mes sensibles propres sont conditionnés par mes sensibles communs, ça c'est sûr. Tous mes sensibles propres sont conditionnés. Mais le conditionnement ne modifie pas ce qu'il y a d'unique dans le sensible propre. Le sensible propre est indivisible. Donc il est unique. Je ne peux pas le mesurer. Alors vous voyez, là aussi, une chose très importante qui se met là. Quand je deviens sourd, bon, je peux mesurer ce que je suis encore capable d'entendre ou pas entendre. Ce n'est pas les sensibles propres. Jusqu'au bout, je resterai sensible aux sensibles propres. Mais les sensibles communs, ah, c'est différent. Pour la vision, c'est la même chose. Mais il y a des situations extrêmes. La situation extrême, c'est quand le sensible commun l'emporte sur le sensible propre. Alors à ce moment-là, je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien de propre. Je suis modifié. Or, de fait, la mensuration de l'extension de notre vue, de la pénétration de notre vue, de notre audition, de notre manière de sentir, là on le fait moins, parce qu'il y a moins d'appareils pour voir jusqu'où va votre odorant. Tandis qu'il y a l'appareil pour l'ouïe, l'appareil pour la vision, on les connaît très bien. Tandis que pour le goût, on regarde, on se néglige, c'est pas d'importance, Le de Ross, c'est négligeable, ça n'a pas d'importance. Mais, et le toucher non plus, on ne fait plus. J'ai des mains qui sont tellement habituées à choses, au bout d'un certain temps, ne touchent plus rien du tout. Il y a des situations limites des sens. Et la situation limite des sens, c'est quand le sensible commun l'emporte sur le sensible propre. Alors à ce moment-là, vous avez comme une mort de la sensation. Ça, vous pouvez le mesurer. Parce que vous mesurez les sensibles propres par les sensibles communs. Vous ne pouvez pas mesurer le sensible propre. Impossible. Vous voyez, c'est là où vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'étude psychologique des sensations qui n'est pas atteint. Parce que les études psychologiques des sensations se font par la mensuration. Alors qu'il y a quelque chose d'unique qui est justement le propre du sensible. Quelque chose d'unique, c'est le sensible propre. Eh bien, le sensible propre est conditionné par la surface, c'est bien évident. Ce n'est pas la même chose de regarder un petit point rouge très loin, très très loin, ou de le regarder comme ça en disant « ça vient, je le vois ». Et le conditionnement est peut-être complètement changé. Et à un moment donné, situation limite, le conditionnement est tel que vous ne voyez plus le sensible propre. Parmi vous, il y en a qui ne voient pas. Il est évident que quand je fais ça, sur le tableau, au fond de la salle, vous ne pourriez pas le voir. C'est très possible. Moi, je le vois. Quand il est plus proche. Et si j'étais dans le fond de la salle, je ne le verrais pas. Surtout ceux qui ont des lunettes, ils enlèvent la mitière. Situation limite. Je ne vois plus. Comment ça se fait, ça? Vous ne voyez plus. Qu'est-ce que ça veut dire, vous ne plus voir? Ça veut dire que votre conditionnement est tel que, au bout d'un certain temps, étant donné la faiblesse de votre vision actuelle, vous ne voyez plus. C'est le conditionnement distance, longueur, qui empêche de voir. Mais ça ne change rien du tout à la connaissance. Rien du tout. Mais ça vous met dans une situation limite. C'est très important pour comprendre ça. Comprendre ce que c'est que la situation limite de la vue. Très gênant, ça dirait, quand on a les yeux fatigués, on voit très très bien, condition limite de la vue. On ne voit plus. Et on ne peut même plus ajuster. Parce que les yeux sont fatigués. Alors quand les yeux sont fatigués, le conditionnement l'emporte. Vous voyez ? Le conditionnement l'emporte. C'est la même chose pour nous. Alors le conditionnement l'emporte. Alors on est en situation limite. On ne peut plus entendre, on ne peut plus voir. On ne voit plus le sensible propre. On ne discerne plus. Alors, vous comprenez que devant ça, on a la tendance de dire qu'on peut mesurer l'intensité de la vision. On peut mesurer par le fait même la vision de quelqu'un. Eh bien non. Au sens rigoureux, la vision ne se mesure pas. Mais je peux mesurer le champ de vision. Je peux mesurer le champ de l'audition. Ça se mesure. Mais pas l'audition elle-même. Pas la vision elle-même, ça c'est autre chose. Parce que la vision est commandée par le sensible propre. La connaissance sensible est commandée par ça. Oui, elle est commandée par le sensible propre. Alors, parce qu'elle est commandée par le sensible propre, ça ne peut pas se mesurer. Je crois que c'est très important pour saisir la différence entre la philosophie du vivant et la psychologie. Après l'étude des sensations, il y a un très gros problème qu'Aristote soulève, que saint Thomas a repris très rapidement, mais qui est important. C'est de savoir comment cette diversité s'unifie. Donc comment nos cinq sensations impliquent une harmonie. Une harmonie, ça ne peut pas nier. Il y a une harmonie et les... Et je dirais, les artistes jouent sur ces harmonies de façon étonnante. C'est propre des artistes. De jouer sur ces harmonies. Des harmonies de couleurs, des harmonies de sons, des harmonies... De... Celui qui est le béotien, il ne rend pas. Oh, tant pis. Ça n'a pas d'importance. Mais le poète, l'artiste joue sur ces harmonies. Il y a des harmonies au niveau des sensations. C'est au niveau des sensations. Il y a des harmonies au niveau des couleurs, il y a des harmonies au niveau des sons, Et on dira du reste un homme de goût, c'est lorsque il pourra allier des couleurs qui ne jurent pas trop entre eux. Quand ces couleurs jurent, on se dit, oh, quel goût, effrayant, sympa. C'est la même chose pour les sons, c'est la même chose pour la cuisine. C'est la même chose, hein. Il y a là quand même quelque chose, vous n'allez pas mettre, je ne sais pas. Hein. Mais vous voyez, de temps en temps, hein, alors on met des choses à la cuisine, on dit, quand même, alors, hein, d'où ça sort, quel hippopotame, puisque ça c'est... Il n'a rien vu du tout dans les harmonies de couleurs et de goût. C'est rien du tout. Alors, très bien, on passe au-dessus. On a un regard sur le voisin. Immédiatement, on passe au-dessus. Ça fait partie de ces dissonances. Vous voyez, il y a des harmonies et des dissonances. Comment se fait-il qu'il y a des harmonies et des dissonances? C'est curieux, ça. Je constate. C'est bien évident. Et l'art augmente la signification de ça. Si je n'avais aucun sens artistique, je ne verrais aucune différence entre les harmonies et les dissonances. Ça existe. Il y a des gens qui n'en ont pas. Ça peut exister. Dans un domaine, je voudrais bien dire, oui, dans un domaine là, non. Je ne vois pas. Puis d'autres, au contraire, ah, c'est effrayant. C'est vrai, on ne peut pas supporter ça. C'est absolument insupportable. Ils aimeraient mieux mourir de faim que de dissonance au point de vue alimentaire. Mais bon, si on est tant soit peu habitué à ce qu'on dénomme une vertu de tempérance, n'est-ce pas, on arrive à dominer et puis dire tant pis, j'accepte cette dissonance à ce niveau-là. Je l'accepte pour quelque chose de plus profond. Plutôt que de mourir en face de mon assiette, dissonance. Incapable, je me souviens, c'est un détail de noviciat. Tout à l'heure, on m'a demandé de raconter l'histoire de noviciat. Elle vient maintenant, oui, complètement oublié. Mais par les dissonances, du coup, ça, il y a des choses comme ça qu'on se rappelle de façon étonnante et qui resteront toute votre vie. Ça, c'est bien évident. Bon, il est mort maintenant. On parlait. Il avait une espèce de délicatesse particulière, extraordinaire. C'était vraiment une éducation sur film. Oui, vraiment, vraiment. Dans les plus grands palaces d'Europe. Non. Alors, au noviciat, ben, ça arrive. On reçoit de temps en temps, et surtout quand on n'est pas très nouveau, on se fait un petit cadeau de famille. Là aussi, une famille qui envoie un petit cadeau. Alors, elle avait mis des madeleines, mais dans une boîte qui avait servi à des savons. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, des madeleines au savon, avec l'odorat du savon. C'était remarquable, c'était extraordinaire. La personne n'avait pas fait attention. Des madeleines qui sûrement étaient très bonnes, sûrement, mais dans une boîte à savon. Et quand ça a voyagé un tout petit peu, ça a eu le temps de s'humecter, n'est-ce pas? Alors, grande promenade, au moment de 4 heures, on sort ça, on était tous persuadés que c'était excellent, on est dans la désillusion. Et alors on en sert au père, qui s'appelait le frère Gabriel, on lui sert ça. Ah non. Et c'est... Non, on ne peut pas manger ça, mon père, c'est un crime de manger des madeleines au savon. Et alors, le père Maître l'a pris très mal, tu vois, plutôt que de blaguer, bon, je comprends. Non, il l'a pris très mal. Alors, la madeleine est revenue le soir, au réfectoire, vous comprenez, c'était pas drôle. Elle est revenue le soir, et avec un petit billet, si vous ne mangez pas, frère Gabriel, si vous ne mangez pas cette madeleine, oui, vous passerez de repas. Alors, ça a duré un certain temps, la madeleine était là. C'était extraordinaire. Il y a des choses, je crois que le père Maître avait tort là. Parce qu'il y a des aversions culinaires qui peuvent être extrêmement profondes, devant lesquelles on ne peut pas aller. Et je crois que chez lui, c'était vraiment une aversion, dans le sens très très fort. Il y a un raffinement du goût qui fait que devant ces choses, on ne peut pas. Ah oui, je mourrai de faim s'il le faut. C'est pas l'âne de Buridan, vous voyez, c'est autre chose. L'âne de Buridan, c'est entre les deux choses. Tandis que là, c'est devant une aversion. Une aversion qui faisait dissonance. Elle songeait à la Madeleine dans, dans une boîte à savon. Vous avez une dissonance, un vrai semblable. Il y en aurait d'autres qu'on peut voir, vous voyez. Parce qu'il y a des comme ça, poissons, par exemple, avec des, vous voyez, les Roland de poissons. C'est extraordinaire, ça. Ça peut faire des choses très étonnantes et qui peuvent durer. C'est ça qui peut durer. Vous voyez. Alors, les dissonances à partir de là, quand même, hein, si on avait un peu de goût, on ne ferait pas ça. Il est bon de garder du goût. Bon, même si volontairement on dépasse en disant tant pis, ça n'a pas d'importance. Oui, oui, mais il faut faire quand même attention. Hein. Parce que les sensations, c'est quelque chose d'humain. Hein, c'est quelque chose d'humain. Donc il ne faut pas des dissonances trop grandes. Au sens très très fort. Il faut respecter la nature. La nature fait qu'il y a une harmonie dans les sensations. Il peut y avoir des dissonances qu'on accepte, c'est très bien, mais c'est acceptable, n'est-ce pas? Vertueusement acceptable. Parce que vous faites un effort de vertu de tempérance pour dépasser ça. Mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. Parce qu'il y a des choses qui sont contraires à ces choses-là. Eh bien, de fait, on voit ces harmonies, on voit ces dissonances. D'où ça vient? Ça prouve qu'il y a, au-delà de la diversité des sens, une unité. Et ce que ça, Aristote appelle le sens commun. Alors ça, il faut bien comprendre. Le sens commun. C'est pas du tout le sens commun de Descartes. C'est pas du tout le sens commun de Garrigou-Lagrange. C'est le sens commun d'Aristote qui est justement ce qui fait l'unité des cinq sensations. Les cinq sensations sont unies dans quelque chose qui est commun, un sens commun, qui est la jonction des cinq, qui permet l'harmonie. Vous voyez, c'est pour ça que je dis la dissonance est contre quelque chose qui est très profond dans le point de vue des sensations. C'est pas du tout, c'est pas une question uniquement d'éducation, il y a quelque chose de plus profond. Il y a un sens commun qui est quelque chose de radical. Et on doit respecter ce sens commun, qui fait l'unité. L'unité à travers la diversité. Alors, on sait très peu de choses, hein, parce qu'on le pose, ça. Vous n'avez aucune expérience du sens commun. Aucune. C'est toujours à travers les sensations, et c'est dans ces harmonies et ces dissonances. C'est les dissonances au niveau du goût, au niveau de la couleur. Il y a des dissonances au niveau de la couleur qui sont insupportables, fond. Pour quelqu'un qui a un certain sens des harmonies de couleurs, non, quand même, ne mettez pas ça devant moi, je pourrais plus prier. Les dissonances qui sont des dissonances, venez, au sens fort. Alors, on peut aller plus ou moins loin, mais il y a de ces choses-là qui existent. Et ceci, c'est le sens commun qui nous fait comprendre ça.